2000 ans après, les réactions des auditeurs de Jésus, aujourd'hui de l'Évangile, mais les auditeurs de Jésus, les réactions sont les mêmes. Ça ne change pas. Je comprends le succès des livres historiques. Je comprends le succès de toutes les biographies des personnalités des siècles passés. L'être humain ne change pas. Nous avons dans l'Église l'avantage de couvrir avec les vies des saints les deux millénaires passés. Et si on ajoute les récits bibliques, les deux millénaires précédents. Les constantes humaines, ce qu'il y a de constant chez l'être humain, c'est fascinant. Pas dans tous les domaines, mais dans de nombreux domaines, et en particulier dès qu'il s'agit de faire un effort. Quand il s'agit de faire un effort, là, il y a beaucoup d'injustices, les inégalités sont criantes. Un père avait deux fils, ça commence comme une parabole, mais en fait c'est une histoire banale de tous les jours. C'est le père qui me le raconte lui-même. Il y en a un, me dit ce père, ce papa, il y en a un qu'il faut que je secoue sans cesse pour qu'il avance. Il faut sans cesse que je le réprimande, que je le houspille, sans quoi il n'en sort rien. Tandis que l'autre, et pourtant il n'y a pas une grosse différence d'âge, ils se ressemblent même physiquement, c'est la même éducation. L'autre, il ne faut surtout rien lui dire. Le moindre repense, il se bloque. Pas très différent, même éducation, mais un rapport exactement inverse à l'autorité ou à la motivation. On peut dire de l'apôtre Pierre, de Simon Pierre, qu'il est de ceux justement qui ont besoin d'être un peu bousculés, secoués, repris, corrigés. Jésus, le sachant, est venu le chercher, lui a dit « Suis-moi ». Il l'a régulièrement, on le lit dans l'Évangile, on l'a régulièrement repris d'ailleurs, parfois vivement. Et il lui a confié son Église. Il lui a confié son Église parce que on ne peut confier une mission de commandement qu'à ceux qui savent obéir. À côté de Pierre, qui est l'homme de l'institution, il y a Jean, le disciple bien-aimé, celui qu'on a toujours considéré comme l'auteur de cet évangile, du quatrième évangile, qui est par nature, lui, plutôt un contemplatif, un observateur. Voyez dans ce passage d'évangile, en quelques lignes, il entre dans le regard de Jésus. Comment il note ? Jésus savait depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas, qui était celui qui livrait, et il s'abstient de tout commentaire. Ensuite, il se contente d'indiquer, il dit rien sur ceux qui partent. Il dit, à partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent, cessèrent de l'accompagner. Pas un commentaire. Et c'est une bonne leçon pour nous, pour que nous gardions les yeux fixés sur Jésus, et que nous puissions nous abstenir de tout commentaire sur ceux qui partent. On peut avoir l'impression qu'il y a aujourd'hui beaucoup plus de personnes qui sont réticentes à l'autorité, à qui il ne faut surtout rien dire, que les reproches, que les moindres reprises bloquent, qui sont réfractaires justement à cela, qui ont besoin au contraire de se décider par elles-mêmes, à qui il faut laisser le temps, mais sur qui surtout les pressions ont un effet exactement contre-productif. On peut avoir l'impression qu'elles sont beaucoup plus nombreuses que par le passé, voire même que cela constitue la majorité de nos contemporains. Ce qui expliquerait, soit dit en passant, la désaffection des croyants, et même y compris, pas uniquement à l'égard de l'Église, à l'égard de toutes les institutions, et à l'intérieur de l'Église, ça expliquerait le succès des communautés nouvelles par rapport aux congrégations les plus anciennes qui étaient beaucoup plus attentives et attachées à la règle. C'est un regard de surface qui a son intérêt, mais qui néglige ce qui est en jeu dans l'Évangile de ce dimanche, qui est au cœur, qui est le cœur de notre pratique religieuse, ce qu'on appelle le secours de la grâce. Le secours, l'aide de Dieu, la grâce de Dieu. Lorsqu'il s'écrit « Tu as les paroles de la vie éternelle », Pierre dit avec ces mots à lui ce que Jean pourtant d'un caractère si différent, dit dans son prologue en disant « La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ ». Ce besoin de la grâce de Dieu, de l'aide de Dieu, il ne change pas en fonction des personnes, il ne varie pas suivant le caractère, suivant l'histoire de chacun. On aurait grand tort de penser que les sacrements de l'Église seraient faits pour une catégorie de personnes qui auraient, davantage que les autres, besoin d'une aide divine, besoin du secours de la grâce. Cette grâce, nous en avons tous besoin. La grâce que nous recevons, ce que nous vivons à chaque messe, ce que nous vivons dans chaque sacrement de l'Église, c'est une aide surnaturelle, une aide divine, pour que nous puissions obtenir ce que nous voulons, que nous puissions obtenir librement ce que nous voulons, dès lors que notre volonté est conforme à la volonté de Dieu. On dirait, voilà, beau jargon. Ce n'est pas de la langue de bois, ça. Alors, je vais essayer de reprendre différemment. Les sacrements de l'Église, ce que nous vivons, c'est la rencontre entre la grâce de Dieu et la liberté de la personne. Ce lieu-là, cet instant présent, ce lieu et ce moment, qui est à la fois personnel, vécu chacun personnellement, et communautaire, ce qui nous rassemble, pour que nous puissions entrer ensemble dans la vie divine. Dieu s'est fait homme pour que l'homme puisse entrer ou rentrer dans la vie de Dieu. Et c'est le Christ lui-même qui a institué ces actions sacrées, nous appelons ces sacrements. La plus importante, c'est l'Eucharistie, c'est la messe. C'était le sujet, c'est le discours que nous avons entendu tout au long de ces dimanches du mois d'août. C'est le chapitre 6 de Saint Jean. Et les six autres sacrements convergent autour de la messe pour que nous puissions justement construire ensemble ce qui est le corps du Christ. D'où d'ailleurs la difficulté, voire l'inutilité, de préparer au mariage des baptisés qui ne vont jamais à la messe, qui ne sont pas confirmés, qui ne vont jamais se confesser. Enlever la messe, qu'est-ce qui reste de l'Église? Le pape François disait au début, une ONG. La messe, synthèse des sacrements, lieu fondamental, central de cette rencontre entre la grâce de Dieu et la liberté de la personne. Pour pouvoir justement faire ajuster notre volonté, notre liberté à cette volonté de Dieu. Mais je ne sais pas quelle est la volonté de Dieu. Il y avait une jeune femme que j'ai reçue pendant des années, à peu près tous les deux mois régulièrement. Chaque fois, elle me disait ça. Mais je ne sais pas quelle est la volonté de Dieu. Elle avait dépassé la quarantaine. Elle espérait toujours, rêvait toujours du prince charmant, évidemment d'avoir des enfants. Elle continue à se perdre depuis 20 ans dans des relations stériles avec des hommes mariés. Elle ne parvenait pas à choisir, comme dit l'Écriture, elle clochait sur les deux pieds, elle ne parvenait pas à choisir entre les séductions du monde et le désir le plus profond de son cœur, justement, de suivre les commandements du Seigneur. 2000 ans après, nos réactions, les réactions des auditeurs de Jésus sont les mêmes. Nous savons. Il savait et nous savons ce que nous devons faire. Nous savons ce qui peut rendre heureux ceux qui nous aiment et que nous aimons. Nous savons ce qui peut nous mettre en paix avec nous-mêmes et avec les autres. Et nous savons que nous ne sommes pas capables de le faire sans la grâce de Dieu. Ce secours surnaturel, voilà ce que les auditeurs de Jésus attendait de lui lorsqu'il prononça dès l'Évangile cet enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Ils étaient certainement différents de nous, moins pressés, moins agités, moins sollicités. Ils avaient d'autres défauts. Mais, comme nous, ils espéraient un truc rapide et sans effort. un truc rapide et sans effort. Au début du mois d'août, comme ça s'est rafraîchi, je peux évoquer cette chaleur du début du mois d'août. Passe devant l'église, en plein cagnard, une paroissienne assez âgée, très âgée. Je me suis demandé d'ailleurs ce qu'elle faisait dehors à cette heure-là. Et puis, me voyant, comme je suis souvent sur le banc devant, elle me lance « Enfin, Dieu n'a pas pitié de nous !» Je suis resté sans voix. Je me suis dit, mais quelle est donc, pourtant, la mienne, je me suis dit, mais quelle est donc cette vision de Dieu? C'est un climatiseur? Médusé devant cette propension, pas que poil, je m'y associe aussi, à tout mettre sur le dos de Dieu. Vous connaissez cette expression, elle est significative, elle est imagée. Tout mettre sur le dos de Dieu. Je pensais à Moïse. Moïse, du creux du rocher, il a vu Dieu de dos, passer de dos. Mais contrairement justement à tout le peuple, il ne mettait pas tout sur le dos de Dieu. Le matin même, justement à la messe, je venais de rappeler ce qui s'était passé au désert, là où, comme dit Jésus dans l'évangile, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Ils ne se sont pas plaints de la chaleur. Ils ne se sont pas plaints du poids du jour. Ils avaient faim et soif. Et c'était une figure pour nous. Ils avaient faim et soif de quoi? De justice. Est-ce que nous avons vraiment faim et soif de justice? Quel est le désir le plus profond de notre cœur? Bien sûr, nous sommes d'accord, on aimerait tous un truc rapide et sans effort. Mais serait-il digne de nous? Serait-il digne vraiment de notre désir, de notre cœur? Seigneur, tu es le Saint de Dieu. Toi seul peux nous aider à voir, à pouvoir discerner et surtout à faire grandir ce qu'il y a en nous de meilleur. Seigneur, donne-nous de pouvoir accueillir ta parole, la méditer, la prier. Les paroles de Jésus sont esprit et elles sont vie.